Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. 89.4 FM, www.radio-libertaire.net. Si vous nous écoutez derrière le lien, le bout du lien. Salut Nancy, salut Arfleur. Dans quelques instants, le Ferry Club. Cette semaine, dans le Ferry Club, un entretien. On reprend les petites séries d'entretiens. Il n'y en a pas eu en janvier. En décembre, mais ça reprend pour janvier. Voilà, avec cette semaine, la première partie de l'entretien réalisé avec Franz Vaillant. Si vous ne connaissez pas Franz Vaillant, c'est un journaliste. Un journaliste. Hein, il va se présenter bien mieux que ce que je ne le fais là maintenant dans l'entretien qui va suivre. Mais c'est aussi et avant toute chose un grand passionné de Léo Ferré qui a beaucoup travaillé autour de l'œuvre de Léo Ferré. Il a réalisé notamment deux documentaires que vous pouvez voir sur l'internet dont il va parler évidemment dans cet entretien. Le premier, c'est La mémoire des étoiles. Léo Ferré, les témoins de sa vie. Et le deuxième, c'est La mémoire des étoiles. Voilà, deux documentaires qui sont magnifiques et que je vous recommande bien évidemment très chaudement. Voilà. Donc la première partie, c'est cette semaine. La première partie de l'entretien avec Franz, vous retrouverez bien entendu la semaine prochaine dans le Ferré Club. Vous retrouverez évidemment la deuxième partie de cet entretien. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous procurer vos cartes d'auditeurs et cartes d'auditrices de Radio Libertaire. C'est à la librairie Publico que cela se passe, au 145 de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Et vous pouvez également participer à la souscription de Radio Libertaire. Pour celles et ceux d'entre vous qui avez les moyens de participer à cette souscription, elle est disponible du côté du radio-libertaire.net. C'est bien évidemment le site de Radio Libertaire. Avant toute chose, je voudrais remercier très chaleureusement et adresser de vives bises à Chris et Sylvie qui ont permis très largement que cet entretien que vous allez suivre soit réalisé. Donc je les en remercie très vivement, très chaleureusement et je les embrasse très fort. Je vous embrasse très fort, Chris et Sylvie. Je me doute que vous êtes actuellement ou peut-être en différé, mais en tout cas je ne doute pas que vous écoutez cette émission. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, le Ferry Club, c'est parti dans quelques instants.
Radio Libertaire 89.4, oui, Radio Libertaire.
Oui, j'ai oublié de dire, nous sommes le mercredi temps.
La Radio Libertaire 89.5.
Oui.
Non.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. le snobisme scolaire qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du besme. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le besme-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui damnent le pion au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. Se bat.
Bonjour Franz.
Bonjour.
Alors je vais couper un peu, changer un petit peu la tradition de ces entretiens. Je vais te présenter quand même très rapidement pour dire que donc tu es Franz Vaillant, le réalisateur de deux documentaires essentiels consacrés à Léo Ferré. Essentiels, alors je te vois opiner du chef, pour moi ils le sont. Consacré à Léo Ferré, et je suis très content de te recevoir dans le cadre de cette émission. Alors, je vais d'emblée dire comment nous nous sommes connus. C'est grâce à l'intermédiaire de SCL, du site leo-ferré.eu, que nous sommes en contact. Donc, on va attaquer comme ça. Moi, je voudrais savoir directement, donc, question de base, on va dire l'amorce. Comment est-ce que Léo est rentré dans ta vie? Comment est-ce que tu as découvert l'existence même de Léo?
Alors, de manière très simple, j'ai un frère aîné qui est âgé de plus de 5 ans, qui a 5 ans de plus que moi, et qui, une fois, m'a demandé de lui donner, sans aucun crédit, mon argent de poche, afin qu'il puisse acheter un album de Léo Ferré. C'était le disque d'or de Léo Ferré. Donc, j'ai abandonné mon argent de poche à mon frère, qui est revenu quelques heures après avec ce disque de Ferré, et qu'il a écouté de manière très suivie, très longue. Et j'en ai profité pour l'écouter en même temps que lui, comme lui. Et j'ai été très secoué, sans vraiment trop comprendre. Hein. Et on avait droit à ce moment-là aux grandes chansons, grandes chansons. Toutes les chansons de Ferré sont grandes, mais celle-ci au grand succès de Léo Ferré, avec le temps, cet extra, etc.
C'était un album en particulier, c'était lequel?
Le disque d'or. Le disque d'or de Léo Ferré, on le voyait faire la tronche sur la pochette, il avait un blouson de cuir, et déjà ça aussi ça m'avait interpellé, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans le sourire obligatoire en plus pour un disque d'or. J'ai commencé à écouter, réécouter comme une espèce de drogue gentille et qui vous fait du bien, parce que certaines drogues peuvent vous faire du bien, l'amour est une drogue qui vous fait du bien, et le temps a passé. Là, je devais donc avoir 14-15 ans.
Donc, du coup, c'est une sorte de révélation, on va dire, en quelque sorte, quoi.
C'est d'abord une curiosité. C'est d'abord une curiosité d'avoir un homme qui chante ainsi, qui habille les mots avec son verbe, avec le grain de sa voix, et qui surtout met un pyjama de musique tout à fait époustouflant. Il y a d'abord une curiosité. Vers 14-15 ans, donc au moment où je fais la découverte, je me rends compte d'abord que les dieux, si les dieux existent, ont été généreux envers lui parce qu'ils lui ont donné trois talents époustouflants. La voix, l'écriture, le don de la musique. Et c'est d'abord une curiosité. Voilà, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça, Léo. Et puis après, un album en amène un autre. Et après, on va de surprise en surprise et d'émotion en émotion. Et puis, on arrive à mes 17 ans. Et où j'étais pas sérieux, mais j'étais pas sérieux non plus à 16, je ne suis jamais devenu même depuis. Et mes parents me disent, que veux-tu pour ton anniversaire, pour tes 17 ans? Et j'avais vu cette affiche comme un coquelicot dans les rues de Pau, puisque je suis natif là-bas du sud-ouest. J'avais vu cette affiche de André Villers, c'était au moment où sortait La violence et l'ennui, Ferré passé à Pau. Et je lui dis, je veux bien une place pour aller voir Léo Ferré. Et là donc nous sommes en février 1982 et je pense que ça arrangeait mes parents parce que la place n'était pas très chère, c'est important de le souligner. Et je suis allé voir, j'ai assisté à un récital de Léo Ferré avec un ami. Et de ce jour-là, la vie a basculé. Alors, le concert, tous les gens, et Ferré parfois a été jusqu'à faire plus de 150 galas par an, tous les gens qui ont vu Léo dans ces années-là, on va dire de 82 à 1990, ont, je crois, tous été saisis par la simplicité des moyens. Il y avait qui ? Il y avait Léo sur scène, il y avait un piano, et il y avait un accompagnateur, arrangiste, qui s'occupait des lumières, du son, qui s'appelle Michel Passy, qui est un monsieur formidable. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant les 2h30 qu'a duré ce concert, chaque mot à porter a été comme une, pas comme une flèche, comme une plume sur le cœur. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai réellement eu une espèce de révélation bienheureuse. Cet homme qui chantait pour moi, j'en étais sûr, il chantait pas pour le reste de la salle, il chantait pour un petit mec que j'étais de 17 ans. Et ça rejoint un peu une phrase que disait Jules Renard, il disait « J'aime Maupassant parce qu'il écrit non pour les autres, mais pour moi. » Et pour moi, ce jour-là, Léo, dans cette petite salle, c'était pas une grande salle à Pau, hein, au Casino de Pau, chantait uniquement pour moi. Et là, ça a été une lumière extraordinaire, époustouflante. Chaque mot était limpide, chaque image portée, chaque musique, paf, tapait le cœur. Et loin de faire des hématomes, ça procurait un plaisir immense. Et le concert, hélas, s'est achevé après au moins 2h30.
Ah ouais, quand même.
Et, ah oui, oui, non, c'était généreux de A à Z. Hein. Et je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Il faut mettre un petit supplément, c'est pas possible. Moi, j'allais retourner dans la grisaille de mes 17 ans, lui allait repartir sur la route, et il fallait que je lui dise, que je signifie combien j'avais été bouleversé par sa prestation. Et alors, j'osais pas trop, et puis Olivier, le gars qui m'accompagnait, me dit « Mais écoute, vas-y, t'auras pas d'autre chance comme ça dans ta vie, vas-y, va le voir. » Et je sais pas comment j'ai fait, mais enfin, j'ai rassemblé mon courage à deux pattes et non pas à deux mains, et je suis allé le voir en coulisses. Alors, les coulisses, c'était un peu minable, hein, c'était une espèce de paravent arrangé derrière la scène, et il y avait Léo avec tout un tas de petits moineaux comme ça qui piqueraient autour de lui, qui piqueraient d'ailleurs la bouffe, oui, qui buvaient la boisson qui lui était destinée. Et moi, je suis arrivé, et tout d'un coup, son regard a croisé le mien, et il m'a vu bouleversé. Il a fendu la foule, il s'est approché de moi, il m'a pris dans ses bras et il m'a embrassé. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous embrasser? Et il m'a serré très très fort contre lui. Et je suis le simple fait d'en parler maintenant, ça m'émeut toujours autant. J'ai quitté la salle un peu comme un boxeur sonné, mais j'ai su ce jour-là que ma vie allait être différente, allait changer suite à tous ces moments-là. j'avais eu une overdose de bonheur et je me suis dit que désormais, il fallait poursuivre, continuer cette overdose de bonheur. Il n'y avait aucune raison que ça cesse. Et ça, je le dois à Léo Ferré. C'est-à-dire que de ce jour-là, je me suis senti débiteur du bonheur qu'il m'avait apporté. Et depuis ces 17 ans, je ne cesse de lui rendre hommage et de rappeler sa mémoire, parfois modestement, parfois un peu moins, mais en essayant de me démerder comme je peux, pour dire que cet homme était un artiste génial, exceptionnel, et qu'il leur a fait un bien immense, et il continue encore à des gens, auprès des gens même qui nous écoutent en ce moment et qu'on ne connaîtra jamais, il continue à faire beaucoup de bien. Et ça, c'est extraordinaire.
En préparant cette émission, tu as employé une expression qui m'a beaucoup marqué. Tu m'as dit qu'il t'avait dépucelé du point de vue du sentiment.
Ah oui, je crois. Mais je pense que Léo a dépucelé la musique, il a dépucelé le verbe, comme l'a fait Gainsbourg d'une certaine manière en baissant la petite culotte à la chanson française. Non, quand on écoute les paroles de Léo, il faut se remettre un peu tout ça. On a affaire à un adolescent un peu bloqué comme je pouvais l'être, etc. Pris dans enchevêtré dans une glue de paradoxes et de conneries et d'incertitudes. Je vivais dans un point d'interrogation. Avec Léo a mis 3 points de suspension à ma vie à ce moment-là. Libre à moi de continuer le chemin, mais il me donnait une lumière, il me donnait une trace. C'est pas un GPS, Léo. C'est pas une bonne étoile non plus. C'est quelqu'un qui vous dit la chose est possible, tu es libre si tu le souhaites, tu es libre si tu veux. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et quand Léo utilise, alors on va pas citer ses chansons, mais parce qu'elles sont toutes là, ces chansons. Pourquoi en distinguer une plutôt qu'une autre? Mais quand des chansons vous parlent comme ça, quand lui-même fait aveu de faiblesse et devant l'amour, comme traînent les chiens, etc., on ne peut être que sensible à ça. Léo, c'est pas du tout un homme fort, c'est un homme vrai. Et ça, c'est quand même tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau. Il y a une puissance émotive, il y a un alcool fort. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé chez Léo, c'est qu'on est dans un alcool fort. On n'est pas dans un aimable Bordeaux, dans un gentil Bourgogne. On est dans un alcool qui vous pète à la gueule et qui vous rend saoul, mais qui vous rend saoul de bonheur. C'est-à-dire que l'ivresse vous porte et se distille dans vos veines fur et à mesure que vous écoutez encore et encore son œuvre. Il y a une addiction à Léo, quelque part.
Un vieux phono d'Aristo, un phono d'avant le magnéto. J'ai passé ma tête de loup, ma peau de pilou et pas pour des clous. Car au milieu du concert, à côté d'une valse à Schubert, un saxo de costaud, le dièse à l'air, montrait ce qu'il avait de plus cher. La zizique à poil, c'est fatal, ça colle à la peau, mes agneaux. Une instrumento qui n'est pas manchot, ça vous passe la main sur le genre humain. En 2 coups de marteau, v'là le piano qui vous uppercute en clé de but. La zizique, ça t'agrippe et te pique toutes tes nippes. Dans une vieille machine à zinzin, une machine à cuiner le refrain, j'ai laissé mon Tchaïkovski et patati ma quinzaine aussi. Lorsqu'au beau milieu de l'interview, derrière une romance à dessous, un batteur patent, tambour battant, battait dans mon palpitant. La zizique à poil, c'est fatal, ça se met dans la peau, mes agneaux. Que ça soit à Pékin ou à Saint-Glinglin, ou bien je ne sais où, d'ailleurs on s'en fout. En 2 coups de chorus, la Vénus qui vous met le starter à l'envers, la zizique, ça t'agrippe et te vique toutes tes nippes. Dans un vieux bastringue à tanguer des fringues et des pieds, j'ai planqué la mer calmée et j'ai dansé sur celle de traîner. Lorsqu'au beau milieu de la cota, sans savoir comment ni pourquoi, un phoque trot trottant trottait content, perdant son là et son temps. La zizique à poil dans un bal, on y voit clapot, mes agneaux. Clapot et les os qui jouent du xylo vont bien faire du tam-tam, c'est dans le programme. En 2 coups de gratte, là le gratteur qui vous gratte ici ou ailleurs. La zizique, ça t'agrippe et te pique toutes tes nippes. Dans une vieille rengaine à rumba, une rengaine à gainer à bas, J'ai retrouvé mes belles années, celles qu'on comptait jamais. Lorsqu'au beau mi-temps de la chanson, derrière un accord de diron, tout s'est arrêté, j'ai tout paumé, je peux plus finir mon couplet. La zizique à poil, c'est câlin, même si t'as que du poil dans la main. Taradim, boum, boum, ça va faire un boum, même si les frangins trouvent que je vais pas bien. Y'a qu'une seule façon, mon mignon, de trouver la fin du refrain. Ferme ta gueule, ferme ta gueule.
C'est une forme de dette d'amour. Tu m'as parlé de dette d'amour.
Oui, absolument.
Que dès lors, tu t'es senti, dont tu t'es senti redevable, quoi, en quelque sorte, à partir de ce moment-là.
Oui, moi, oui. Parce que je fonctionne un peu comme ça. Si j'oublie de manière assez incroyable tous les gens, les quelques personnes qui, à un moment donné, ont pu me faire du tort, ont été franchement dégueulasses, je n'oublie jamais les personnes qui m'ont aidé à un moment. Alors, on peut aider quelqu'un de différentes manières, mais je trouve que le rôle d'un artiste, et en tout cas Léo l'a bien révélé, et toute son œuvre est poreuse de cette émotion-là. Léo nous aide à mieux vivre. D'ailleurs, on peut déjà faire un distinguo entre les artistes qui, un peu malgré eux, mais aident les autres à vivre, et ceux qui, malgré tout, vous accompagnent, comme ça, c'est un peu les tubes de l'été, c'est-à-dire qui ancrent une mémoire de votre vie à un moment donné. Léo ancre toute votre vie, et il exprime de manière poétique, de manière musicale forte. J'insiste sur la musique parce que c'est un aspect que l'on a tendance toujours un peu à négliger, la musique de Léo. C'était un immense musicien. On ne peut pas le réduire à un poète, ni à un grand chanteur, ni à un musicien. Il était les trois à la fois, mais il était d'abord un immense musicien. Et quand il vient à Paris, et quand il propose son oratorio du Mal-aimé en 54, c'est parce qu'il a le fol espoir de devenir un musicien. L'histoire en a décidé autrement, mais malgré tout, sa musique est toujours là. Et quelqu'un qui ose employer des mots qu'on n'employait pas à la maison, des mots qu'on n'emploie pas dans la rue, quelqu'un qui ose agencer des mots pour vous procurer une émotion et qui a ce génie de les communier avec une musique hors pair, on ne peut être qu'amoureux de cet homme-là et qu'amoureux de son art.
Et donc, de cette dette d'amour, finalement, va découler un peu ta carrière professionnelle, en fait, en quelque sorte.
Alors oui, fin du concert. Je m'égaye comme tout le reste de la salle vers la sortie. D'ailleurs, je repère Léo qui va vers le bar. Il a dû prendre une espèce d'alcool fort, je ne sais pas trop. Voilà, fin de la première séquence. Mais je sais à ce moment-là, on est en février 82, je sais que la vie ne sera pas pareille. Je me destinais à une espèce de vie un peu d'employé de bureau, de je ne sais pas trop quoi, machin. Je me suis dit non, Léo a été curieux du verbe, moi je serai curieux de la vie. Je suis devenu journaliste suite à ça. Ce n'est pas Léo qui m'a dit sois journaliste, c'est pas un gourou Léo, hein. C'est quelqu'un qui vous indique qu'il y a peut-être une autre voie possible. Et cette autre voie peut être le bonheur, en tout cas la satisfaction et la recherche, la découverte. Et moi, je suis devenu journaliste, peut-être pas suite à ça, mais en tout cas, ça a fortement influencé. J'avais la curiosité un peu des autres. Je me suis dit, tiens, ben, continuons à l'être. Et puis, j'avais aussi cet espoir qu'étant journaliste, j'allais aussi le retrouver sur mon chemin. Puisqu'on dit toujours que la curiosité est un vilain défaut. Pour un journaliste, c'est une qualité professionnelle. Donc forcément, j'allais le retrouver. Et ça a été bien. Et puis, c'est vrai que ça m'a permis de voir, quelques années après, Jean-Roger Cossimon, qui lui est venu à Pau. J'étais à ce moment-là un journaliste pigiste avec un P très minuscule, parce que vraiment je vivais pas bien de ça, mais ça m'a permis de voir Cossimon sur scène, et j'ai vu aussi la première méchanceté de mes confrères. Je sais qu'après sa prestation le lendemain, un confrère qui est d'ailleurs mort depuis avait titré méchamment à propos de Cossimon, t'es plus dans le coup papy, en lettres grasses, et j'avais trouvé ça un peu ignoble. C'est-à-dire ce pouvoir du journaliste, malgré tout, il y a toujours un droit de réponse, mais bon, qui était un peu dégueulasse quand même. Bon,
oui, quand même. Ouais.
Et je me suis dit bon, mais voilà, Léo, il est là, il est vivant, et plein de sang, plein de vie. On va essayer de temps en temps, parce que je suis pas non plus journaliste dit musical ou littéraire ou quoi que ce soit, de lui rendre hommage. Et je n'ai eu de cesse de le faire.
Ta passion naît, grandit quoi, pour Léo en quelque sorte, et très rapidement tu vas commencer à travailler sur son œuvre et sur son message, sur sa personne.
Ouais, alors c'est un chemin un peu. D'abord, il y a des disques. Il y a des disques qui sont devenus après des compacts disques et aujourd'hui des fichiers MP3. Mais il y a d'abord des disques. Il y a d'abord une œuvre à connaître. Ce qu'il y a de formidable avec Léo, y compris cette première période qui est un peu méprisée, où les gens lèvent un sourcil un peu agacé sur la première période.
Période chansonnier, Chant du Monde.
Oui, Chant du Monde, etc. Les gens ne voient que la période Barclay, c'est-à-dire 60-73. Non, tout ce que j'ai pu découvrir était magnifique. C'est-à-dire que cette émotion, cet impact au cœur, cette explosion dans le cœur que j'ai eue dans ce Casino à Pau, je l'ai retrouvée après sur disque. Et ce, bien des années avant. Son premier contrat doit être, je ne sais pas moi, de 49 ou 50 au Chant du Monde. Et je trouvais que c'était formidable. Et donc, cette émotion qui me portait, je la retrouvais par le disque. Autant continuer. Il faut se remémorer qu'à cette période, Léo continue à sortir des albums et bientôt, ça va être des doubles et des triples albums. Donc voilà, j'étais dans une espèce de communion, aussi de solitude, parce qu'autour de moi, personne n'aimait Léo. Ouais. Encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on a 5-6 chansons, alors on va les citer. Il y a Paris Cana, il y a Joli Môme, il y a Avec le Temps.
C'est extra.
Et puis peut-être une ou deux qui traînouillent encore. Bon. Et les gens ont le sentiment d'aborder déjà l'œuvre de Léo avec ses 5-6 chansons, qui sont des chansons évidemment formidables, mais il y a toute une œuvre derrière, il ne faut pas s'arrêter là. Et ça aussi, a été une de mes premières leçons journalistiques, de me rendre compte que les gens s'arrêtaient finalement à la surface, quoi. Je pense que Ferré laisse une œuvre foisonnante, c'est une espèce de jardin improbable qui donne des fruits improbables aussi, mais tous succulents, tous vénéneux, tous bizarres, mais tous uniques. Voilà, ils ne ressemblent à rien, et c'est pour ça, je crois, que beaucoup de gens, je crois, passent à côté de quelque chose de majeur qui pourrait les aider dans leur vie.
Et toi, dans ta jeunesse, justement, ces textes-là, ils te parlent, quoi.
Ça me parle et c'est le début du bordel, parce que...
Du bordel.
Oui, c'est le début du bordel, parce que ce soit dans les premiers amours, que ce soit dans les premiers rapports professionnels, quand vous avez le malheur de l'ouvrir un peu trop, quand vous inspirez, je veux dire, vous piquez, c'est pas le mot, ce serait très présomptueux, mais quand vous inspirez un peu de Léo, de ses colères, et qu'on commence à mal vous regarder, quand votre ami, je sais pas, moi, préfère d'autres chanteurs d'à ce moment-là, et que ça la bassine, que vous mettiez du Léo et du Léo, on se rend compte voilà, qu'il y a une espèce de petite différence, qui est un petit fossé, qui est rien du tout, puis finalement, avec les années, qui devient des falaises. Et encore aujourd'hui, et maintenant, je pense qu'il y a des gens qui aiment Léo et il y a les autres, voilà. Alors ça peut paraître abrupt et salé sans doute, mais je m'en fous. Il y a les gens qui aiment Léo, tout comme il y a les gens qui aiment, je ne sais pas moi, Buñuel, Blier, etc. Il y a les gens qui aiment Léo et ceux qui ne l'aiment pas. Et ceux qui ne l'aiment pas, pour moi, malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on ne pourra jamais être véritablement amis.
Ah oui, t'en fais carrément un truc.
Oui.
C'est sûr, quoi.
Ça n'empêche pas, mais je peux pas entendre une discussion, moi, où on commence à chipoter. C'est ce que j'appelle moi les médecins légistes de la virgule. Telle chanson, telle attitude, etc. Et curieusement, la postérité de Léo a basculé à son corps défendant sur des choses de sa vie intime, avec Pépé, avec un divorce, avec Fracas, etc., etc. Bon, je trouve ça désolant. Je trouve ça un petit peu dommage. J'en fais quelque chose de majeur, parce que c'est une forme de... C'est une résonance à une sensibilité particulière. Et quelqu'un qui apprécie un artiste comme vous semblez l'apprécier, on sait qu'on va trouver un terrain ami. Mais c'est à peu près la même chose. Des gens qui aiment Scorsese, par exemple, qui aiment vraiment Scorsese ou Chaplin, etc., auront du mal à accepter sans broncher un propos inepte sur Scorsese ou sur Chaplin. Mais moi, c'est pareil sur Léo. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps. Je me lève ou j'envoie une paire de baffes avec un type qui a pignon sur rue à Paris, qui s'occupe de chansons. Bon, je ne vais pas plus loin, mais il me dit « Oui, vous savez, Léo, c'est quand même, à l'exception de 2-3 chansons, c'est très phraséeux, c'est un marécage, machin, pff, c'est un peu n'importe quoi. » Et je ne pouvais pas lui balancer une baffe, parce que, bon, on passerait sa vie à balancer des baffes, quoi. Mais c'est une attitude que je ne comprends pas. Et c'est quelqu'un qui, pourtant, est respecté sur la place à Paris. Mais je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire autant d'inepties alors qu'on n'en dit jamais. Merde sur Sardou, sur Aznavour ou sur les autres. Pourquoi Léo cristallise autant de bêtises alors que son œuvre est étincelante? C'est ça que je ne comprends pas.
Moi, j'ai une petite hypothèse. Je pense que la nature même des textes de Léo renvoie aux gens, aux hommes, aux femmes, etc., quelque chose qui est peut-être trop violent pour eux, qu'ils ont du mal à intégrer, quoi, qui est trop fort. Quoi.
Certainement, mais c'est la vie qui est violente. Quand vous avez un copain de solitude qui exprime avec des mots, avec ses mots et sa musique, et qui arrive à provoquer une résonance particulière, Michel Bouquet me l'avait dit au cours d'une interview, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand Michel Bouquet vous dit que Léo l'a sauvé du suicide, ça veut dire quelque chose quand même. Qu'il soit Michel Bouquet.
Il te l'a formulé comme ça ?
Oui. Avec ses mots, lui, mais on comprend que l'album Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, ces albums-là ont sauvé Michel Bouquet d'une phase dépressive très forte. Et quand un artiste arrive à vous soustraire à ces pesanteurs terrestres-là, c'est quand même quelqu'un de bien.
Mais est-ce que ce n'est pas le revers de la médaille, justement, qu'il soit capable, chez certaines personnes, de procurer une émotion très forte, mais plus qu'une émotion d'ailleurs, de leur permettre de construire quelque chose ou d'éviter justement une dépression, etc. Mais justement, parce que chez certains et chez certaines, il arrive à susciter ça, peut-être que chez d'autres, justement, la répulsion est d'autant plus forte, tu crois pas ?
Oui, mais c'est un tri naturel. C'est un tri naturel. Je pense qu'il y a des gens comme certains pianos. Certains pianos ont une résonance particulière, d'autres n'en ont pas. Je pense que chez certaines personnes, il manque le do, le la, le fa. Ça n'empêche que les autres notes fonctionnent à peu près bien. Voilà, je dis simplement que pour moi, c'est un indice fort quand une personne met une vigueur parfois rageuse au sujet de Léo et dit une connerie à son sujet. A contrario, je me suis rendu compte aussi que les gens qui aimaient beaucoup Léo s'entendaient pas nécessairement entre elles. C'est-à-dire qu'ils touchent à l'intime. Et il n'y a pas de communion dans l'intimité avec Léo. On est seul du début jusqu'à la fin, comme il disait en concert. Voilà, entre les deux, il y a des faits divers. Entre la naissance et la mort, il y a des faits divers qui nous souhaitaient le plus heureux possible. Mais je crois que le grand tort aujourd'hui, mais de tout temps, je crois, c'était de vouloir communier dans la solitude. Non, on est seul vraiment. On trouve des pansements, des baumes apaisants, mais on reste seul malgré tout.
C'est un tort, mais en même temps, c'est aussi c'est ce qui découle aussi de l'écoute de Léo. C'est vrai que on est seul face à cette solitude, mais parfois, on a envie de la crever, cette solitude. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est un amoureux, un amateur de Léo... D'ailleurs, tiens, tu fais un petit distinguo entre ceux qui parlent de Ferré et ceux qui parlent de Léo.
Oui, très clair. Ceux qui disent, moi j'écoute Léo, je sais qu'ils écoutent Léo. Ceux qui disent, oui, Ferré, son œuvre, machin, etc. On sait qu'on a affaire à des cons. Très rapidement quand même, voilà. Parce que il est incontournable. Et ça aussi, c'est une espèce de gros caillou dans la chaussure de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut sur la chanson française, et je vois des rééditions, je vois des hommages à la télévision qui passent, qui repassent, etc. Ferré est cité vraiment du bout de lèvres quand il est cité, mais il est incontournable. Une émission sans Léo Ferré, alors qu'on parle de poésie, de musique, de chanson française, c'est une émission qui est incomplète. Voilà. Et j'ai remarqué effectivement que tous les gens qui parlent de Ferré étaient... tous, ou la plupart, ou la grande majorité des gens qui ne le portaient pas dans son cœur. Et encore une fois, c'est leur droit. Il n'y a pas de gourou là-dedans. Je dis simplement qu'ils passent à côté d'un continent magnifique.
Mais pour en revenir à cette idée de solitude, peut-être que le fait justement que certains et certaines d'entre nous aient pu trouver dans l'œuvre de Ferré des mots qu'on voulait mettre sur certains états d'esprit qu'on avait en nous, peut-être que ça donne envie aussi de transcender cette solitude et justement de se dire, ah bah, puisque tu as compris et basta, puisque tu l'as écouté, etc., on doit sûrement avoir des atomes crochus, mais tu dis que c'est pas aussi simple que ça finalement, quoi, de rompre cette solitude.
Non, je crois qu'on ne peut communier les solitudes entre elles. Je pense que c'est une erreur. Léo est une luciole dans la nuit qui nous indique un petit bout de chemin que l'on suit ou que l'on ne suit pas, mais qui reste un chemin de solitude. On peut pas, hélas, assembler les solitudes. Ce serait trop simple. Deux personnes qui sont seules, c'est la solitude au carré, mais c'est tout. C'est quand même très important de savoir qu'un artiste, un artiste majeur, ait pu distinguer, ait pu honorer via le prisme de son art cette solitude-là. Je ne vois pas d'autre personne. À un moment, alors le grand truc aussi, c'est d'opposer Brel et Ferré. C'est chiant comme la mort. Non, on ne peut pas opposer Brel et Ferré ou Brassens ou les autres. Je crois qu'entre eux, les soleils ne se font pas d'ombre. Voilà.
Aimes-tu le mieux ? homme énigmatique, dis, ton père, ta mère, ta sœur, ou ton frère. Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis, vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse immortelle. L'or, je le hais comme voix ici tu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas. Les merveilleux
Ferry Club sur Radio Liberté.
En tant que journaliste, tu vas donc garder un peu le cap sur Ferry et puis tu vas donc quelques années plus tard, tu vas commencer à travailler sur les documentaires que tu as pu réaliser.
Oui, alors
ça va venir assez vite.
Je l'ai vu 6 fois Léo sur scène. Je l'ai revu quelques années après février 82.
Cette entrevue.
J'étais un petit con d'ailleurs. Je l'ai vu à Mont-de-Marsan. Je suis allé le voir. J'avais pris la tête à mon rédacteur en chef pour essayer d'obtenir un son de Ferré. Mais quelle est l'actualité de Ferré ? Il m'avait dit. Et j'avais dit comme ça, tout à trac, demain c'est la fête des mères, j'aimerais bien connaître l'opinion de Léo Ferré sur la fête des mères. Et donc j'ai pris la voiture, j'ai fait 150 km pour aller le voir, je l'ai vu, il avait donné son exclusivité à une consoeur de France 3, donc il m'a dit 2-3 mots. Il m'a dit, vous savez, la fête des mères, c'est Le Pen, c'est Pétain qui avait promotionné ça. Et je fais, mais justement, qu'est-ce que vous pensez de Pétain, de Le Pen? Ah, du stylo, moi j'aime pas parler du stylo, Le Pen il appelait le stylo. Bon. Et bon, voilà, j'étais pas fier de ce moment-là, franchement, j'étais pas fier. Mais
pas fier d'avoir trouvé n'importe quel prétexte pour lui poser une question, quoi, en fait.
Parce que j'étais un petit con. On a la chance, encore une fois, d'être nouvellement ému. On s'en fout de Le Pen, de Pétain, tout ça. Il fallait simplement lui dire à nouveau que je l'aimais, puis il fallait se retirer doucement et planquer le micro. On s'en fout. J'étais con. Bon.
Ouais, mais t'étais dans une démarche journalistique aussi.
Exact. Et puis je devais justifier aussi le déplacement d'une bagnole avec 300 km aller-retour la nuit. Bon. Et voilà. Mais non, il s'est passé aussi une chose, c'est que j'ai suivi. Alors je l'ai revu à Montpellier, je l'ai revu dans notre ville comme ça. Enfin, je l'ai revu en qualité de spectateur. Et je me suis rendu compte, comme beaucoup de personnes qui vieillissaient, que vers la fin, c'était terrible. Je l'ai à nouveau revu à Pau. Là, entre-temps, j'étais devenu journaliste. Enfin, je bouffais à peu près correctement à Paris de mon métier de journaliste. Et je l'ai revu à Pau, 90-91. Et il était très, 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 très fatigué, avec des trous de mémoire très nombreux sur scène. Et je me suis rendu compte, et ça m'a fait chialer, que les gens dans la salle venaient non pas pour saluer un artiste, mais venez pour dire à l'heure du petit four et du champagne tiède, de dire, voilà, ah ben je me souviens, nous l'avons vu, il était très fatigué, etc. On venait voir le lion malade, quoi, le lion qui allait mourir. Et ça m'a bouleversé. Parce que c'est... on sentait que la fin était proche et que malgré tout, il était debout et malgré tout, il assurait au moins 2 heures sur scène. Et à ce moment-là, la décision est venue. Enfin, je me suis dit... Cet homme va s'éteindre et il serait bien de collecter des témoignages de ceux qui l'ont connu et qui, eux, sont encore bien vivants. Donc, ça a commencé à germer l'idée de faire un premier documentaire là-dessus. Voilà. Le temps a encore un petit peu passé. Léo Ferré s'est éteint. Et je me souviens, j'étais à Antenne 2, France 2, peut-être déjà à l'époque. Et l'annonce est tombée. Elle est tombée plusieurs jours après le 14 juillet, jour officiel de son décès. Et on m'a dit, mon rédacteur en chef m'a dit, tiens, Franck, puisque tu es disponible, tu vas aller faire Catherine Sauvage. C'est comme ça qu'on dit. Ah bon, elle se produit quelque part. Mais non, c'est Ferré qui vient de claquer et tout. Et je suis resté saisi. Et
tu l'as appris comme ça ?
Je l'ai appris comme ça. Je l'ai appris comme ça. Et donc, avec l'équipe, on est parti voir Catherine Sauvage. Et je me revois en train de pleurer dans la voiture. Alors, un peu gêné, parce que les gens ne comprenaient pas trop. Pour eux, c'était dans l'ordre des choses que Léo Ferré meurt, quoi. Bon, mais pour moi, c'était pire que tout. Et voilà, ça a été un peu... Ça reste assez un souvenir pénible, quoi. Et finalement, tout depuis lors, de ce moment-là, dès que j'entendais des conneries sur Léo, je me disais que ma démarche était valide, était honorable. C'est-à-dire rencontrer des personnes qui l'ont réellement connu et qui ne diraient pas de bêtises à son sujet, quoi.
Parce que t'en entendais beaucoup ?
Toujours. Et je me demande, par un effet un peu pervers, si finalement toutes ces conneries ne sont pas la vraie promotion de sa postérité, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce fait divers, s'il n'y avait pas eu toutes ces bêtises à son endroit, est-ce qu'on continuera à parler de Léo ? Je ne sais pas. Regardez le nombre de personnes qui artistiquement n'ont rien à voir, mais je suis frappé. On n'entend absolument plus parler de Gilbert Bécaud aujourd'hui. Barbara, bon, encore là, il y a une espèce de revival, etc. Mais je me dis toujours qu'il se trouvera toujours parmi les personnes qui bavent sur Léo une personne un peu plus intelligente que l'autre qui prendra soin d'écouter un disque en entier. Voilà. Et en cela, je me dis que la publicité, même négative, peut être pas mal finalement. Voilà. C'est une question. Et donc j'ai fait un premier Léo Ferré. Alors c'était aussi le début du DVD. Et les éditions La Mémoire et la Mer, Mathieu Ferré, a commencé à sortir un album qui s'appelle Seul en scène. Et c'était la première fois publique, en tout cas, qu'il y avait une captation de Ferré sur DVD. Il y avait une émission formidable de Guy Job pendant 3 soirs de suite sur France 3 quelques années auparavant. C'était Léo Ferré, Théâtre des Champs-Élysées, 1984. Là, c'était magique. Là, vraiment, quand la télévision commence à balancer ce genre de programme, on paie la redevance avec le sourire, quoi. Bon, c'est fini maintenant. Et
ils avaient diffusé le concert
Ils avaient diffusé intégralement, oui.
Qui est quand même un concert important, quoi.
Oui, bien sûr.
Il permet des choses entre les chansons. Il nous dit des textes super... Enfin, des textes, non, pas vraiment, mais il nous dit des choses très importantes entre les chansons.
Qui est pour moi la captation la plus fidèle de ce que de Léo en concert. C'est réalisé magnifiquement. Non, c'était quelque chose. Bref, je suis amené à rencontrer évidemment Mathieu, parce qu'étant en journée, je profite de ça pour faire une émission spéciale Léo Ferré, alors qu'on sort un DVD dont je rencontre Mathieu Ferré. Je lui parle d'un projet de 52 minutes. Alors, comme Mathieu a souvent été maltraité par les médias et par tous ces gens comme ça qui gravitent, il est un peu méfiant, il me dit, il faut en parler à ma mère. Alors, je rencontre Marie Ferré à la Vidéothèque de Paris, quand sort ce fameux DVD Seul en scène, et elle me dit, ben venez à la maison parce que j'ai peut-être des documents qui devraient vous intéresser. À la maison, c'est-à-dire Castellina et Chianti, à côté de Sienne, dans les vignobles du Chianti, quoi.
En Italie.
Et là, deuxième gros choc, c'est-à-dire une espèce de secousse, l'après-secousse, l'après-tsunami de février 82. J'avais dit à Marie, écoutez, c'est très aimable à vous, mais je n'ai pas trop d'argent, je suis mon propre producteur, il faudrait que vous me trouviez un petit hôtel pas très cher de là où, à côté de là où vivez. Elle m'a dit, je m'arrangerai. Et Marie est venue me chercher à l'aéroport de Florence. Elle m'a amené, alors je ne vous dis pas les battements cardiaques, c'est-à-dire que je voyais en vrai la maison où avait vécu Léo, où avait travaillé Léo, où avait aimé Léo. Et Marie me dit, bon, on va d'abord déjeuner à la maison, c'est quand même plus sympathique et tout. Bon. Et à la fin du déjeuner, je lui dis, maintenant, ça serait bien que j'aille à l'hôtel déposer mes affaires. Elle me dit, mais j'ai trouvé, oui, l'hôtel, on y va. Et elle me dit, l'hôtel, c'est ici. Et elle me montre la salle où travaillait Léo, et au-dessus, il y avait une mezzanine. Et c'était la chambre qui m'était réservée. C'était une mezzanine ouverte, quoi. Et je me penchais, je voyais, je dormais au-dessus du piano de Léo. Quand vous avez vécu des choses comme ça, forcément, il y a le cœur qui explose, quoi. Et je suis allé de surprise et d'émotion en émotion, parce que, non content de ça, elle m'a ouvert l'intégralité de ses archives audiovisuelles, et j'ai appris, je ne savais pas, que Léo Ferré aimait beaucoup la vidéo, et qu'il aimait beaucoup filmer, ou voir se filmer, ou filmer ses enfants en vidéo. Elle m'a dit, ben, prenez, s'il y a des choses qui vous intéressent, ça pourra vous aider, etc., pour votre film. Et là, on est à la limite de la crise cardiaque au niveau de l'émotion, parce que vous êtes un petit mec, un journaliste parmi des milliers d'autres, et vous avez une dame qui a quand même été la femme de Léo Ferré, et pour qui Léo Ferré a écrit parmi les plus belles chansons d'amour. Vous avez une famille, vous avez Mathieu, Manuela, Marie-Cécile, qui vous accueillent avec le sourire, et en plus, qui non seulement vous ouvrent leur cœur, mais aussi vous ouvrent les armoires avec des archives inédites, à vous, le petit journaliste parisien. Et donc voilà, donc c'est ainsi, pendant une semaine, je n'ai pas beaucoup dormi pendant cette semaine-là, j'ai pu collecter quelques matériels.
Elle savait que tu étais aussi, alors que tu étais journaliste de fait, parce que tu t'es présenté lorsque tu l'as contacté, mais elle savait aussi que tu étais aussi un amateur de Léo.
Oh, je crois qu'elle a perçu, parce que j'ai un peu une espèce d'hémorragie verbale dès qu'on parle de Léo. Alors donc, elle s'est dit, tiens, celui-là, il est peut-être un peu moins con que les autres, quoi. Bon.
Elle a senti que tu connaissais quand même le parcours du.
Je crois. Je pense qu'elle a été. Il faut que je pose la question. Je vais la voir là dans quelques jours au Festival Le Gourdon, au Festival de Léo Ferré. Enfin non, je dis ça, puis j'oserais pas lui poser la question. Je pense qu'elle s'est dit, tiens, ce petit mec, il doit aimer Léo parce qu'il n'attend pas après une grosse maison de production pour lancer son documentaire. Il n'y a pas une affaire de gros sous. Avec ses petits moyens, sa petite caméra, il veut faire quelque chose. Après tout, allons-y, on va essayer de l'aider. Je pense que, voilà, mais je pense que Léo était un peu pareil. Je pense qu'il préférait parler à une personne qu'à une entité abstraite, quoi. Il disait, avec Barclay, au moins, on s'engueule avec Barclay. Tandis qu'avec ces nouvelles maisons de disques, on s'engueule, il n'y a plus personne de responsable. On ne s'engueule pas avec un sigle ou contre une firme, quoi. Bon, et voilà, et j'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié parce que vous êtes comme tout le monde, quoi, avec des problèmes de mec, des problèmes de papa, des problèmes de solitude, des problèmes d'argent, et vous rencontrez des gens qui ne vous connaissent pas et qui vous font confiance et qui vous donnent un morceau de leur vie, quoi, des quignons de solitude comme ça, via des images audiovisuelles, via des photos, via des témoignages aussi. Et là, encore une fois, vous vous sentez dépositaire d'une émotion que vous allez essayer non pas de garder pour vous, comme font souvent mes aimables confrères, mais au contraire, de la faire partager au plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'est né le premier documentaire, Léo Ferré, les témoins de sa vie.
Tu veux dire que tes confrères, en général, ils ont plutôt tendance à garder les informations qu'on leur donne
que c'est une catastrophe.
Ben,
c'est
un journaliste, il est pourtant là, normalement, pour partager.
Alors,
et pour
il partage son travail, mais il ne partage pas tout son travail. Et tous ne sont pas comme ça. Et je rends hommage maintenant à Georges Bégout, grâce à qui j'ai pu faire mon deuxième documentaire, et qui m'avait donné les images tournées à Castellina en 1991 chez Léo. Mais la plupart le sont, c'est-à-dire qu'un journaliste, il a ses contacts, il a ses réseaux, il a un reportage sur France 2 aussi entre 1 minute 30 et 2 minutes 30, au-delà de 3 minutes c'est un dossier. C'est-à-dire que si on a mis 40 secondes d'image avec Léo, d'interview de Léo, il reste parfois près d'une heure et demie comme ça, qui partent à la poubelle, ou alors qui partent dans la poche du journaliste en question et qui ne le montrera à personne. Il thésaurise comme ça des morceaux d'émotion. Moi je trouve ça criminel.
Mais c'est pas de sa faute finalement, parce qu'il est formaté et qu'il a malheureusement pas la place pour diffuser ce qu'il a.
C'est pas un problème de faute, je pense que c'est un problème d'égoïsme, oui. C'est un problème de générosité. C'est quand même pas un mystère de dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Léo et qui continuent d'assurer un travail de mémoire, qui continuent d'acheter ses disques, qui continuent à pleurer avec Léo. Ces gens-là, il me semble normal de les... de leur dire, ben moi j'ai peut-être un truc qui peut vous intéresser, ben si vous voulez, je vous le prête. Je vous le prête via Internet, parce qu'on dit toujours piratage. Mon cul, c'est pas du piratage. Parfois, il y a du pirate hommage. Moi, je pense que c'est du pirate hommage. Voilà. Et ces documents, je vous les prête, ou en tout cas, je les porte à votre connaissance. Alors, ça peut passer par YouTube. Moi, j'aime cette démarche-là. J'aime cette démarche généreuse parce qu'elle est gratuite et parce que Léo, toute sa vie, merde, c'est pas rien, quoi. Enfin, de 1904, sa vie artistique, de 45 à 93, et ici même au sein de Radio Libertaire, il a fait des concerts gratuits pour vous, enfin gratuits, des payants dont la recette allait à Radio Libertaire. C'est quand même un exemple. Au nom de quoi un plumitif, un caméraman va garder des documents qui pourront aider à vivre quelqu'un quelque part. Ça me semble un peu criminel. Le mot est fort, mais ça me semble un peu criminel.
Mais peut-être que le partage est une idée subversive de nos jours.
Oui, alors je pense que c'est une espèce de couscous. Hein. Il y a aussi beaucoup de conneries, il y a pas mal d'égoïsme. Et puis aussi un phénomène particulier avec Léo, c'est que chacun possède son Léo. Comme certains enfants ont leur propre peluche, leur propre doudou, Léo est le doudou de nombre de personnes. Et on peut comprendre que certaines personnes le gardent que pour eux. Mais je pense que c'est contraire à ce que lui-même initiait ou préconisait à travers ses chansons. Il y a une formidable générosité. Et la générosité, quand elle n'est pas partagée, ben c'est de l'égoïsme.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule. Je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. La solitude. Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant, l'espoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais la solitude. La solitude, la solitude, la solitude! Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos Danaïdes démocratie. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. C'était donc la première partie de l'entretien réalisé avec Franz Vaillant. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter, autant de plaisir que nous avons pris, Franz et moi, à le faire. Avant de se retrouver la semaine prochaine pour la suite, hein, bien évidemment la suite de cet entretien, je voulais vous signaler que j'ai reçu un coup de fil d'une jeune fille tout à l'heure, là, qui m'annonçait que dimanche prochain, nous serons le 28 janvier à partir de 16h du côté de L'Haÿ-les-Roses. C'est très exactement au Moulin de la Bièvre, 73 avenue Laroum à L'Haÿ-les-Roses. Il y a un concert qui est organisé par l'association Zarbleu tout simplement. Et vous aurez l'occasion de voir en concert Lise Bonneville, qui est elle-même poétesse et chanteuse, qui sera accompagnée de Sophie Uvodic au piano et qui interprétera une somme de chansons de Léo Ferré avec trois thèmes particuliers qui sont la mer, l'amour et la liberté. Voilà, des thèmes qui sont évidemment essentiel hein, dans l'œuvre de Léo Ferré. Voilà. Je remercie cette jeune fille qui a appelé tout à l'heure. Vous venez d'écouter le Ferré Club. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de l'entretien. Il sera encore question de Marie Ferré et de toute la famille Léo. Il sera question, bien entendu, du travail de Franz Vaillant, que je remercie une nouvelle fois d'avoir de bien avoir voulu se prêter au jeu de cet entretien qui a été réalisé il y a quelque temps de cela, en juillet dernier, sans vouloir dire de bêtises. Même c'est sûr, c'est en juillet dernier. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin d'elle. Salut.